conteur Pepito Matteo ouvre sa porte secrète. Une petite maison de vacances à Damgat en Bretagne. Pepito Matteo a grimpé le petit escalier escamotable qui mène sous les toits. C'est là, au plus près de l'imaginaire, qu'il travaille. Et reçoit aujourd'hui la rédaction d'Histoire ordinaire.
Je le trouve dans un grenier. Et ce grenier, je l'ai un petit peu aménagé comme un bureau. Parce que mon grand fantasme, c'est d'avoir un bureau où je pourrais mettre toutes mes affaires. Ce serait mon atelier d'alchimie où je pourrais créer tout ce que je voudrais. Puisque j'invente plutôt les histoires dans ma tête, je suis un rêveur. Un rêveur depuis tout petit. Pourtant, quand j'étais petit, on habitait en Champagne, dans une ville qui s'appelle Troyes, mais je suis né à Romilly-sur-Seine, qui est une ville où on fabriquait les chaussettes. Ma grand-mère faisait les raccords des chaussettes, elle était payée à la pièce chez elle, et tous les gens de la ville et tous les gens de l'Aube travaillaient dans la bonneterie. Une personne sur cinq, je crois, travaillait dans la bonneterie. Mais à l'époque, on vivait au rythme des usines, et des sirènes d'usine, et des 3-8, et on voyait les ouvriers qui sortaient de l'usine à vélo. Nos parents, plus ou moins, travaillaient en bonneterie. Mon père n'était pas, lui, bonnetier, puisqu'il travaillait dans les fruits et légumes. Il venait d'Espagne. Il était venu quand il était petit, avec ses mains, comme il disait, pour travailler. Quand tu as tes mains, tu peux te débrouiller dans la vie. Ça a toujours été une interrogation pour moi, mon père, parce que même si on ne racontait pas d'histoire à la maison, il racontait toujours des choses de son enfance. Et nous, les enfants, ça nous fascinait, parce que ça faisait comme une sorte de mythologie. Mais d'où vient-il? Donc, d'où venons-nous? Qu'est-ce que c'est que ce voyage qu'il a fait? Il était parti de l'Andalousie à 17 ans, à peu près juste avant la guerre civile espagnole. Son oncle était socialiste. Il était venu nettoyer les forêts dans les Ardennes après la guerre de 14. Et puis, à un moment donné, il a voulu retourner en Espagne. Il avait gagné un peu d'argent. Et il a senti que les choses ne tournaient pas très bien en Espagne. Ça commençait à être la guerre civile. Et donc, il a décidé de revenir en France, mais d'amener un de ses neveux. Et donc, il a amené mon père. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus où c'est étrange parce que mon père est jumeau avec un autre. Donc, il a choisi un des deux jumeaux. Et je me dis des fois, s'il avait choisi l'autre, il serait venu en France. Ma mère y aurait vu du feu puisqu'il se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Donc, ils se seraient peut-être mariés. Ils auraient peut-être eu un enfant de mon âge qui aurait peut-être raconté des histoires sans savoir que j'aurais pu les raconter à sa place s'il n'avait pas été là. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que mon père est venu. Il a rencontré ma mère qui était champenoise et qui donc était de Romilly-sur-Seine. Et on est allé vivre à Troyes. Mes premiers vrais souvenirs sont de la ville de Troyes. Et je me souviens que mon père m'emmenait au catch ou au football. Moi, je ne connaissais pas le théâtre, je ne connaissais pas les livres. Il n'y avait pas de livres à la maison, il n'y avait pas de musique. Mon envie, c'était toujours de m'amuser à parler parce que j'étais le petit, donc je comptais pour du beurre. Et j'étais au milieu de mes deux grandes sœurs qui avaient une belle prestance et un beau bagout. Et ma mère et ma grand-mère parlaient beaucoup. Ma mère avait des phrases à l'emporte-pièce, ma grand-mère aussi. Et c'était elle qui entretenait le langage. Elle disait toujours des choses qui semblaient marrantes, mais qui étaient un peu désespérées. Ma grand-mère disait « La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours. » Ça ne s'invente pas. Hein. Et nous, ça nous faisait rire. Il y avait plein d'expressions comme ça. Mais en y réfléchissant, ça me fait penser que sa vie devait être très difficile. Et qu'elle s'en sortait par la parole. Donc la parole était toujours une question d'honneur, de survie, de prendre les choses plus à la légère que dans la réalité. Mon père, lui, conduisait les camions, il était très absent. Et donc je vivais dans ce milieu féminin où ça parlait beaucoup. Et moi, il fallait que j'en fasse des tonnes pour me faire entendre puisque j'étais le plus petit. Je pense que sont nées dans ma tête deux choses importantes. D'une part, c'est qu'il faut pouvoir intéresser les autres pour se faire écouter, et d'autre part que la parole permet des rêves qu'on n'a pas dans le réel. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais été tout à fait bien dans le réel. C'est pas que je n'étais pas heureux, au contraire, je m'amusais beaucoup, j'avais plein de copains et tout ça, mais je pensais toujours qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la réalité. Je vivais dans des milieux quand même assez défavorisés, et que Quelquefois, quand on rêvait d'autre chose ou quand on inventait des histoires, c'était mieux que le réel. Je me souviens que d'avoir été en colonie de vacances tout petit, d'ailleurs dans une colo de tuberculeux, mais en fait ma mère nous envoyait là pour ne pas avoir à payer. Je me souviens qu'il y avait des grands, ça m'impressionnait. Et pour me faire des copains, je leur racontais un film que j'avais vu, que j'étais censé avoir vu, mais en fait je ne l'avais pas vu. Et donc comme ils me posaient des questions, ils me disaient alors il était comment le chevalier et tout ça, alors je leur disais mais il était habillé tout en rouge. Et alors il était fort, oui, il était très fort. Et en fait, c'est leurs questions qui nourrissaient mon imagination. Et du coup, j'étais assez fasciné de pouvoir les embarquer par le bout du nez. Et je pense que c'est ce qui m'a donné l'envie, disons, d'accorder de l'importance aux mots et au fait d'être à la fois dans le réel et à la fois ailleurs. À partir de 15-16 ans, j'ai travaillé comme peintre en bâtiment. Et je n'avais pas d'autre envie que de faire le tour du monde. Et pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Mais un jour, voulant quand même faire mon tour du monde, j'ai été apprendre l'anglais en Angleterre, puisque je n'avais pas fait d'études secondaires. Et en Angleterre, en entrant dans un centre français pour chercher des petits boulots, des pioles, des cours d'anglais, tout ça, je suis tombé dans une répétition de théâtre. Je suis trompé de porte. Et pour moi, la symbolique de la porte est très importante parce que quand on ouvre une porte, il peut nous arriver plein de choses, mais encore faut-il l'ouvrir, cette porte. Donc il faut toujours partir pour pouvoir découvrir. C'est beau de rêver, mais il ne faut pas rester sur place. Et donc, en ouvrant cette porte, je suis tombé dans une répétition de théâtre. Et c'était d'ailleurs une pièce de Bertolt Brecht sur la guerre civile espagnole, les fusils de la mer Carrare. Et ça m'a fasciné de voir que des gens, c'était des amateurs, lisaient une pièce de théâtre. Et moi, je me disais, mais on voit tout ce qu'ils disent. Parce qu'ils m'ont demandé si je voulais faire le mort dans la pièce. Il fallait un mort, j'en suis pas mort, et ça m'a beaucoup plu. Pas de faire le mort, mais de jouer. Et je leur ai demandé, et à partir de ce moment-là, il a été évident que mon tour du monde à moi passerait par les planches, et par la parole, par le rêve, par le jeu. J'ai travaillé avec une troupe amateur, je suis revenu en France. Ma cousine, qui s'intéressait sans doute à ma dérive, m'a intéressé à la fac de Vincennes, qui était une fac ouverte au non-bachelier, une fac issue de mai 68, où on pouvait reprendre des études sans le bac, et où il y avait des étudiants de partout. Et je me suis inscrit dans cette fac en psycho, avec mon certificat d'études. Et puis comme il y avait un département de théâtre très fort, petit à petit j'ai basculé dans le théâtre, et là j'ai été jusqu'au doctorat, je suis devenu chargé de cours, et j'ai été chargé de cours plus de 20 ans. Jusqu'à l'année dernière, et parallèlement, j'ai repris un travail d'artiste. À partir du théâtre militant, justement, où on intervenait sur les marchés, dans des endroits spontanés, en prenant la parole avec les gens, donc un théâtre brechtien, finalement, on disait aux gens, attendez, arrêtez de faire vos courses une seconde, on va vous montrer comment les femmes sont traitées en France aujourd'hui, ou je sais pas quoi. Et quand j'ai vu les conteurs, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Ils peuvent être toute l'histoire, et en même temps, ils ne sont pas l'histoire. Donc ils peuvent en sortir pour donner leur point de vue, etc. Oui, cette fac de Vincennes était ouverte aux non-bacheliers, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, les cours étaient dédoublés en soirée. Il y avait notamment même en théâtre des gens qui étaient dans les écoles officielles du théâtre et qui venaient à la fac pour se ressourcer. Dans cette fac, ce qui était intéressant, c'est que rien n'était donné en cours magistraux. Il n'y avait pas Monsieur le Savoir qui était donné aux étudiants qui ne savaient rien, mais on tenait compte de ce que les étudiants apportaient. Il y avait des étudiants africains qui venaient chercher le savoir en France, mais qui avaient envie de bouger des choses dans leur pays. Le féminisme était très très combatif. Et moi, ça m'a balancé dans un monde que je n'ignorais pas parce que j'étais de gauche dans ma tête. J'avais vu ce monde ouvrier dans lequel j'étais, je voyais les conditions dans lesquelles travaillait mon père, je sortais pas de la cuisine à Jupiter, comme disait Coluche, donc j'avais des partis pris. Mais là, il fallait prendre la parole. Et t'arrivais en théâtre, on te disait pas, alors on va t'apprendre à jouer un personnage, ou on te disait, mais qu'est-ce que tu as à dire? Donc l'étudiant en théâtre n'était pas un étudiant qui cherchait à jouer des rôles, il cherchait à jouer son rôle, finalement. Et donc, m'est toujours apparue cette question-là que le langage t'engage, l'effet du tangage. C'est-à-dire que tu prends des risques en prenant la parole. Et tout ça m'a bercé, non pas forcément dans des prises de parole dans les assemblées générales et tout ça, j'étais pas très fort politiquement, mais j'étais très intéressé par ce que disaient les gens sur la situation politique de l'époque, sur la manière de le représenter en théâtre, sur une parole active dans le réel. Il n'y a pas de démarcation entre ce que tu vis et ce que tu fais, ce que tu fabriques, même si c'est du théâtre, donc de l'imagination, du rêve. Il faut que ce rêve corresponde à quelque chose qui est important pour toi et que tu as envie de partager avec les autres, quitte à te faire sauter dessus et prendre des risques. Et j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Émile Noël, c'est lui qui m'avait, on pourrait dire, mis le pied à l'étrier, qui était journaliste à France Culture, psychanalyste, metteur en scène, un grand monsieur, qui est d'ailleurs toujours un ami, et qui travaillait sur l'image mentale. Comment les mots produisent des images, par exemple dans le mime, comment à partir d'images mentales on reproduit dans son corps des choses qui sont la matérialisation des images que l'on porte. Et moi je l'ai toujours relié au travail du conteur, dès que j'ai pris mon envol avec ça, parce que le conteur lui sollicite les images. Donc, quand il raconte qu'un homme marche sur un chemin dans une forêt un soir, il produit dans son cinéma intérieur, je l'appelle le cinéma du pauvre, parce que mon père me racontait quand il était enfant, il n'allait pas au cinéma, c'était des cinémas en plein air en Espagne, il racontait entre eux ce qu'il voyait, c'était le cinéma du pauvre. Et donc, ça m'a toujours paru comme ça que le conteur, lui, qui est un peu l'ancêtre du cinéma, avec son corps, avec l'utilisation de l'espace, son regard, sa relation au public, il crée des positions et des images. Des fois, il est dans sa tête, donc il est une sorte de témoin en direct de ce monde qu'il voit. Ça s'est peut-être déroulé il y a 100 ans, dans un village. Et puis, quelquefois, il est ici et il parle aux gens, ici. On est là, et pourtant, je suis en train de vous parler d'un monde qui est ailleurs. Mais ce monde-là, on le partage ici. Ou bien ici peut devenir ailleurs. Ici, c'est la terre où l'homme marche. Et puis là, il y a une porte. Il cogne à la porte. Tout d'un coup, on est en direct comme des reporters qui feraient un reportage en direct sur la situation. C'est pareil qu'un reporter, finalement, au micro, qui est au milieu de la guerre, en train de décrire les combats. Et donc cette question-là de l'image m'a toujours semblé essentielle, c'est un peu ce que j'enseignais à la fac, comme une écriture. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture orale, c'est une véritable écriture, sauf qu'elle se fait avec les silences, avec le visage, avec les gestes, avec les déplacements dans l'espace, avec les apartés au public ou à la caméra, et donc que tout ça crée des plans et des changements de distance par rapport à l'auditoire, comme au cinéma. On fait des zooms, des travelling, des cuts, des fondus enchaînés. Lorsqu'on raconte une histoire, on peut la raconter de plusieurs points de vue différents. Même une histoire comme Le Chaperon Rouge, on peut très bien la raconter au conditionnel, par exemple, ou la raconter au présent. Ça se passe aujourd'hui. C'est une petite fille qui quitte sa maison. Elle traverse la banlieue pour arriver chez sa grand-mère qui habite dans les bâtiments derrière son école. On peut changer l'énonciation et en fonction de ce que l'on apporte de différent, on va modifier l'entendement de l'histoire. Et donc ça m'a toujours intéressé aussi parce que le conteur n'est surtout pas, et là j'ai un problème avec la tradition, quelqu'un qui reporterait une tradition, qui la reperpétuerait de la même façon, comme si c'était quelque chose de figé et de mort. Pour moi, si la tradition existe, c'est parce que justement, elle a pris la forme du présent au cours des temps, de telle sorte qu'on retrouve le chaperon rouge en Chine, en Italie, en Afrique, sous des formes différentes. Là, la parole est libre comme un oiseau. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui écoute l'histoire de l'interpréter différemment. C'est un peu comme un livre. Sauf qu'un livre, on peut le jeter, mais le conteur, lui, il vous accapare, il ne vous laisse pas sortir. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout été bercé par les contes traditionnels, et on pourrait dire c'est, je suis venu à cette parole racontante par l'imagination. Moi, j'inventais des histoires, et petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait des conteurs qui avaient des histoires formidables, qui appartenaient à un répertoire fabuleux, international et libre, qu'on pouvait reprendre à travers les siècles et les civilisations. Et j'ai trouvé que dans ce matériau-là, il y avait des choses à reprendre. C'est pourquoi aujourd'hui encore, il m'arrive non seulement de raconter mes histoires, mais de les mélanger avec des mythes ou des contes que je transforme, des blagues. Je peux faire des collectages, aller dans une usine, comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ou sur la prison, en allant faire des ateliers en prison ou aux urgences à l'hôpital. Donc c'est une parole qui est multiple, à la fois sur le réel, à la fois imaginaire, et puis à la fois qui peut emprunter à la tradition, mais pas pour la laisser telle qu'elle, au contraire pour la nourrir de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis quelquefois il m'arrive de faire des montages, des contraintes oulipiennes, où je me donne des obligations de travail. Je vais décider d'un spectacle en 7 monologues, avec 7 contraintes d'écriture, données à 7 metteurs en scène, avec 7 contraintes de mise en scène. J'ai toujours été intéressé par la lutte des classes. Je suis marxiste, sans être absolument communiste, même si je me sens assez proche des communistes. Mes parents n'ont jamais fait de politique. Mais je sentais quand même derrière, il aurait bien voulu vivre mieux. Ma mère posait beaucoup de questions d'argent, se plaignait toujours qu'on était pauvre, tout ça. Mais ce qui me motivait beaucoup, c'est que j'avais des copains. On avait monté un groupe de rock. On appelait les Flash. On avait 3 guitares et une batterie. Et les copains s'étaient cotisés parce qu'ils travaillaient en usine. On était 4, il y en avait 2 qui travaillaient en usine. Donc ils avaient 14-15 ans. À l'époque, on travaillait à 14 ans. Et donc, ils bossaient en usine. Donc, avec l'argent de l'usine, ils s'achetaient la guitare ou la batterie. Et donc, on voyait bien. C'était des ouvriers, quoi. Il fallait répéter le soir après, quand ils avaient fini leur boulot et tout ça. Et donc, je me souviens avec un qui était quand même assez communiste. On lisait Marx et Freud en même temps. On essayait on lisait ça pour essayer de comprendre. Donc, pour moi, ça a été toujours indéniable que cette question me préoccupait. Et Marx m'est arrivé en pleine poire, je me suis dit, mais il a tout à fait raison. Aujourd'hui, je le pense 10 fois plus. Sauf que je ne me suis jamais vraiment impliqué dans un parti politique. J'ai fait partie de luttes, etc. Le théâtre, on allait raconter dans la rue, on allait solliciter les gens à partir de Vincennes. Je n'en ai jamais fait un dogme pour les autres. Et ce théâtre militant, qui est de donner une parole un peu toute faite aux gens, m'a toujours posé problème. Moi, je me sens bien dans les manifestations jusqu'à un certain point. Des fois, dans les manifs, je me dis ça manque de contradiction. On est tous en train de crier la même chose, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut ne pas penser la même chose, même si on pense une communauté ensemble. C'est pour ça que dans mes spectacles, j'ai beaucoup de mal, notamment depuis que je travaille seul, même si je fais des allusions, je n'attaque jamais le front, ou rarement, ou alors c'est vraiment des pirouettes, des clins d'œil, mais j'attaque jamais de front un problème de manière manichéenne. Je suis actuellement même un peu agacé par les gens qui ont des réponses pour les autres. Moi, j'ai plutôt envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans le réel? Qu'est-ce que vous changez, vous, dans le réel? Et moi, dans mon travail, je sais que les choses qui m'amènent à changer aujourd'hui, ce sont 2 choses qui ne sont pas très révolutionnaires. C'est le rêve et la question du langage dévié. Mes 2 derniers spectacles, Sans les mains et en danseuse, par exemple, je raconte des choses qui sont réelles, mais je les raconte sous forme de rêve, comme une sorte de cauchemar dans lequel je suis balancé, qui est amusant et qui en même temps permet de lire les choses dans le réel si on le veut. Mais on peut aussi, un enfant peut écouter ce spectacle puis s'amuser avec ce que je raconte. Et moi, ça m'intéresse qu'il y ait cet aspect de « on peut s'échapper dans l'imaginaire ». La liberté du rêve est déjà en soi, pour moi, un outil de révolution et d'émancipation. La deuxième chose, c'est la question qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai étudié les fous littéraires. Ce sont des gens qui ne sont pas publiés que par eux-mêmes ou par des amis, qui n'ont jamais fait d'adeptes ni fait partie d'aucun courant littéraire et qui écrivent des choses qui sont un peu tordues, un peu pas formatées du tout. Beaucoup ont des problèmes de langage, il y en a qui inventent des mots, il y en a qui partent dans des charabias où on ne comprend pas grand-chose, il y en a qui refont les lois de la nature, enfin, il y a tout un tas de farfelus. Et en travaillant sur ces gens-là, comme Queneau l'a fait d'ailleurs à un moment donné, ça m'a posé toutes sortes de questions sur les problèmes langagiers. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un monde où tout est clair, on a toutes les informations du monde, tout nous est donné. On dirait qu'il n'y a pas de contradiction, tout est plat, et pourtant le monde ne change pas, ne va pas mieux, ou peu. Et c'est souvent par des petites choses qu'on le change. Et je me suis aperçu que lorsqu'on dit par exemple un texte, ou lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui parle mal, ou qui dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on est obligé de faire le chemin pour aller jusqu'à lui. Et ça me fait penser à ce grand philosophe africain qui s'appelle Empateba, enfin qui est décédé aujourd'hui, qui est un homme de très très grande parole, de l'université des Baobabs, comme il se disait, et qui disait « quand je parle à quelqu'un et qu'il ne me comprend pas, il vaut mieux que je me taise pour essayer de comprendre ce qu'il a à me dire, qui me montrera pourquoi il n'avait pas compris ce que je voulais lui dire. » Il y a quelque chose comme ça qui m'intéresse, et donc c'est une manière pour moi actuellement d'être le plus juste avec moi-même, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui est plutôt interrogatif et désarçonnant pour le public, ou pour celui qui écoute ce genre de personnage, parce que ça l'oblige à faire le chemin vers lui. C'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est cette question, il faut faire un effort pour aller vers l'autre. C'était parti de quelque chose d'un petit peu réel vers chez moi, à la République, à Paris. Tous les matins, je crois qu'il est peut-être encore là, mais je le voyais, moi, il parlait. On ne savait pas à qui. Et quand on prêtait l'oreille, on a l'impression qu'il parlait un charabia. En fait, il disait des choses. « Mais pourquoi tu me regardes ?» Il parle au ciel. Tu me dis pas pourquoi je suis là. Alors, d'un coup, ça, on se disait, mais il a quand même une vraie adresse à quelqu'un. Peut-être un ancêtre, un fantôme, Dieu, tout le monde. Et pourtant, personne ne l'écoute. Mais au théâtre, on est censé écouter les gens. Donc, je l'ai un peu transposé, sauf que je l'ai mis devant une machine à laver. Il parlait d'une machine à laver, mais en fait, il parle au monde. Il n'arrive pas à mettre ses pièces, et donc il soupçonne la machine de ne pas accepter ses pièces à lui, parce que c'est des pièces trop petites, et qu'il n'a pas les moyens, et petit à petit, on comprend qu'il a tout un discours qui est en fonction de la machine, qui tourne dans un sens puis dans un autre, qui va à l'essorage et tout, et tout en utilisant quand même des notions de lavage, il parle de le lavage de son cerveau qu'il n'a jamais pu aller à l'université. Mon père ne parlait pas bien français, donc pour un espagnol, les B, les V se mélangent. Chez nous, c'était les toujours capter l'étrangeté du langage. Et d'ailleurs, je le fais un peu quand je raconte en espagnol, parce que yo tengo un gato por la garganta, ça veut dire j'ai un chat dans la gorge. Parce que gato en espagnol, c'est chat. Alors moi, je le dis, si t'as un gâteau dans la gorge, tu le manges, en français. Mais manger, en espagnol, c'est comer. C'est pas la même chose. Mais comer, en français, c'est comme une vieille qui dit du mal de tout le monde. Donc quand tu la vois, vaut mieux partir. Mais partir en espagnol, c'est pas pareil, c'est faire deux parts, c'est rompre. Et si tu dis romper en français, ça veut dire que tu peux partir. Mais partir en espagnol, c'est salir, tu vas quand même pas salir avant de partir. Donc je peux délirer comme ça sur l'espagnol, avec ces mots qui veulent dire deux choses, et ça m'amène à la question, toujours d'ailleurs du langage, que pour moi, l'étrange et l'étranger, c'est pareil. C'est-à-dire que mon père, par exemple, il parlait pas espagnol, seulement quand il se mettait en colère, Donc ça faisait de la poésie, mais qu'on ne peut pas trop utiliser. Mais sa parole était un peu étrange, étrangère. Et donc, nous, les enfants, ça nous faisait rire. Parce qu'il disait des fois des mots qui faisaient deux images. Et j'ai entretenu cette question-là, que les mots disaient autre chose que ce qu'ils voulaient dire. Et pratiquement tous les mots, rien que le mot « mot », par exemple, quand on va aux urgences, on voit les mots des gens qui n'ont des fois pas les mots pour le dire. Et donc, on est parti dans une poésie et en même temps dans un jeu qui est très extraordinaire, qui est que la parole peut sauter d'une chose à l'autre. Et quand on écoute quelqu'un, des fois, on ne voit pas tout à fait. On fait de l'école buissonnière. Il vient de nous dire un truc et hop, ça y est, le truc est parti. Un turc, j'ai entendu un turc. Et donc, je pense qu'il y a un langage parallèle qu'on n'est pas trop habitué à manipuler parce qu'on veut se faire entendre par les autres, mais que l'artiste, d'une certaine façon, peut revendiquer comme une matière, soit de la poésie. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait « La poésie, c'est une négociation entre le sens et le son. » Et je crois qu'il y a ça. Le son peut donner un sens différent, et le sens peut donner des sons. Il peut faire des leçons. Ça m'amuse, et en même temps, ça donne une polysémie, justement. Ça permet aussi, des fois, d'inventer des mots. Je crois qu'au-delà de la compréhension même de l'intelligibilité des mots, il y a le son. Par exemple, des tout petits bébés, ils ont fait des expériences qui comprennent que les B, 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 c'est bébé, c'est baiser, c'est chaleureux. Les P, les M, maman, papa, c'est les premières syllabes qui viennent. Ils comprennent à travers les sons déjà des choses. C'est ça qui m'intéresse dans cette question de l'étrange, étranger. Moi, je sais simplement que l'école n'appartient pas à ceux qui ne s'y sentent pas légitimes, on pourrait dire. Et moi, je sentais bien que mes parents n'étaient pas... Enfin, mon père n'avait jamais été à l'école, donc je ne savais pas si j'étais moi-même au bon endroit. Et je pense que beaucoup de jeunes, et notamment issus de l'immigration, sentent qu'ils ne doivent pas apporter leur culture à l'école. Et ça, je crois que c'est une grande erreur. Il faut qu'on apporte ce qu'on est. Je ne sais pas s'il y a des enfants du voyage, par exemple, qui arrivent dans une école parce qu'ils sont de passage. C'est intéressant de leur demander d'amener ce qu'ils sont et d'expliquer aux autres comment ils vivent, des choses sur leur culture. C'est un moyen d'échange et de respect. Tout ce qui peut être, encore une fois, étrange ou étranger peut nous amener à découvrir des choses qu'on ne savait pas de soi, notamment, par exemple, l'artistique. Quand on fait venir un prof de danse, ou de théâtre, ou je sais pas moi, un écrivain dans une classe, il peut allumer les enfants d'une autre façon. Tout d'un coup, parce que quelqu'un vient de l'extérieur et qui demande qui aimerait danser sur une musique, et que celui-là y arrive, tout d'un coup il vient de trouver sa position par rapport aux autres, et il va devenir peut-être, pas un danseur, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va faire qu'il a trouvé un positionnement par rapport aux autres, une manière de s'exprimer, qui sera peut-être pas tout à fait des mots, on ne sait pas, mais qui va être en tout cas une reconnaissance du regard des autres. C'est que dès que vous allez, même dans des quartiers populaires, vous racontez une histoire, les gens se mettent à raconter eux-mêmes, ils rigolent et tout ça, vous sentez que ça leur fait du bien parce qu'ils prennent de la distance par rapport à leurs difficultés. C'est la réalité qui devient pour un instant dans une bulle. Et le réel est presque l'imaginaire. Et je trouve que c'est une notion que l'humain ne doit pas perdre. C'est cette notion, j'y parle beaucoup de symbolique, moi j'irais d'imaginaire au sens large. Il faut pouvoir s'imaginer que le monde puisse être autrement pour que la réalité ne soit pas notre maître, mais qu'on puisse la changer, cette réalité. Parce qu'elle n'a... elle n'est que le résultat aussi de ce qu'on en a fait. Donc le réel existe, mais il est modifiable. Et quand on rêve par l'imaginaire, par les histoires, par l'art, on s'imagine on garde l'idée intacte que le monde n'est pas figé. Et donc on est déjà en mouvement, presque, j'allais presque dire en révolution, mais c'est des mots qui sont galvaudés, on reste en jeu par rapport aux autres. Puisque on a la possibilité de décaler, donc on est en jeu. Et un moteur qui est en jeu, c'est un moteur qui tourne, il y a de la graisse. Donc, ça me semble vraiment important, pas de faire des dogmes, des choses qui sont des idées reçues, pour, des idées pour tout le monde, mais au contraire, d'avoir des idées tout en ayant de la souplesse dans les relations avec les gens. Et des fois, tiens, ça me fait penser à une chose. Moi, je suis un peu toujours en marche. C'est-à-dire que c'est la vie qui nourrit les histoires. Je vois quelque chose, tac, ça me fait penser à ça. Je fais un atelier, ça me renvoie à ça. À un moment donné, on m'a proposé d'aller faire des ateliers en prison. Je me suis dit, tiens, oui, c'est le moment d'y aller. J'étais allé en prison plusieurs fois pour raconter. Le contact n'était pas facile, c'était pas toujours satisfaisant parce que les prisonniers étaient, ne nous connaissaient pas, donc je dis moi, nous, parce que j'étais avec un musicien. Donc c'était un peu froid, ça dépendait des endroits où on allait. Quand on m'a proposé d'aller pour un atelier d'un an, j'ai emmené des jeunes conteurs avec moi et on avait rendez-vous, donc ils étaient détenus toutes les semaines. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on commence à rencontrer des gens, on les revoit. On travaille avec eux sur l'imaginaire et tout ça. Et ça, ça m'a donné envie de faire mon spectacle Parloir, qui est un spectacle sur la prison. Ça veut dire que je n'avais pas prévu, mais en voyant ces gens-là en prison, qui sont peut-être ce que j'aurais pu devenir. En tout cas, dès qu'on va en prison, on est face à son propre enfermement. Soit qu'on aurait pu être enfermé soi-même ou qu'on est enfermable du jour au lendemain, mais... on est dans la question de qu'est-ce qu'on fait dans nos propres idées reçues, dans notre façon d'être enfermé dans notre monde, comment on communique avec les autres, on n'a pas de barreaux, mais on a des barreaux symboliques. Donc, automatiquement, ça renvoie à quelque chose d'essentiel, et moi, ça m'a mis en route. Je me suis dit, ces histoires des gens-là peuvent devenir des histoires pour un spectacle. Et ce que je trouvais fabuleux, c'est que quand on faisait des ateliers en prison, les mots avaient une importance énorme. Ils poussaient les murs, les mots. On se retrouvait avec des mecs qui arrivaient, ils étaient, ou des filles, parce que j'allais chez les filles, qui étaient souvent recroquevillées sur eux-mêmes, ils sortaient de leur cellule avec des préoccupations de jugement, de machin et tout. Avant de commencer, on faisait un exercice physique. On faisait des choses imaginaires, par exemple, soulever le plafond dans l'imaginaire, tirer une corde, des manipulations de comment se sert un café, enfin n'importe quoi, pour pas tout de suite parler, pour être dans le concret de l'imagination. Et puis après on faisait des jeux de langage, on se passait la parole avec des petits jeux rigolos comme ça, sans se poser de questions. Et puis après j'amenais un thème, je disais tiens aujourd'hui je parlais de l'amitié. Je racontais une histoire sur l'amitié. Et puis après je leur disais ça vous dit quoi? Alors il y en a il disait moi ça me rappelle... un conte ou une histoire qu'on m'a racontée ou un truc vrai. Et ça se mettait. Puis quand ils commençaient à parler un peu d'eux-mêmes, hop, j'arrêtais. Puis je disais, on va inventer une histoire. À partir de ce qui vient d'être dit là, on va inventer. Je vais vous donner des contraintes et puis on se mettait à inventer. Et ce qui est génial, c'est qu'ils deviennent acteurs avec les mots et en plus, ils s'écoutent. Et on s'aperçoit qu'en prison, la plupart des gens n'ont pas l'habitude qu'on les écoute. Donc au début, ils parlent les uns à travers les uns sur les autres, donc il faut leur dire non, quand quelqu'un parle, on écoute. Après, ça sera toi qui parleras, les autres t'écouteront. Et ils sont très étonnés que leurs paroles, parce que ça parle dans tous les sens en prison, même à travers les fenêtres, il y a un bruit énorme. Mais là, que leurs paroles soient entendues, que les mots aient du poids, que tout ce qu'on dit nous engage, ça les scotche. Et il y en a qui se révèlent à travers ça, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir un artiste à l'école, qui peuvent être révélés. Et c'est extraordinaire parce que ça fait penser à ce que dit Cyrulnik, pour que, c'est la résilience, pour que son histoire à soi, qui n'est pas terrible, elle puisse être entendue des autres, il faut la revoir avec des mots particuliers, il faut la revoir d'une manière intéressante ou amusante, pour que, même si l'histoire est tragique, elle puisse intéresser les autres. Et donc, Au fond, une histoire que n'importe quel conteur raconte ou que les gens racontent dans la vie, c'est souvent des histoires qui les touchent ou qui sont importantes pour eux-mêmes, mais qu'ils présentent de telle façon que ce soit intéressant ou partageable avec les autres. Et donc on est un peu dans un malentendu, mais qui est finalement très créatif. Et comme je crois en plus que la réalité n'existe pas en tant que telle, puisque deux personnes qui ont vu un même événement ne le racontent pas de la même façon, même des frères et sœurs, même un couple. Et donc je pense que ça n'est pas trahir le réel que de le dire avec les images qu'on a vues qui sont importantes pour nous. Et en tout cas, c'est comme ça que naît la rencontre, c'est comme ça que naît aussi la poésie, par le malentendu quelquefois, et c'est comme ça que naît l'écoute et la parole dans un partage. On n'a peut-être pas inventé autre chose de mieux que la discussion.